Micro-Méga,
Caroline Lachowski.
Rebonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie en compagnie de l'astrophysicienne Sylvie Vauclair qui a décidé de nous raconter des histoires, ou plus exactement une histoire qui nous concerne tous, celle de la Terre, notre petite planète vue de l'espace.
Micro-Méga.
La Terre, l'espace et au-delà. C'est le titre de votre nouveau livre, Sylvie Vauclair, bonjour.
Bonjour.
Alors pour nos auditeurs qui n'ont pas la chance de vous connaître, qui n'ont pas encore été émerveillés par la symphonie des étoiles ou qui n'ont pas encore découvert la chanson du soleil, deux de vos précédents ouvrages, on y reviendra, eh bien on pourrait dire que vous aussi, vous êtes une chercheuse qui aime à partager son savoir et qui s'est même donné pour mission de mettre les découvertes de l'astrophysique à la portée du grand public. Alors c'est sûr qu'il y a à la fois matière, mais il y a aussi urgence à prendre conscience de quoi, Sylvie Vauclair, de notre place dans l'univers, au fond.
C'est sûr que notre place dans l'univers a beaucoup changé, en tout cas notre conscience de la place que nous avons dans l'univers a beaucoup changé récemment, et je crois que nous vivons une période exceptionnelle de l'histoire de l'humanité, parce que pour la première fois au cours de notre génération ou de la génération qui nous a précédé, l'homme a quitté la Terre. L'homme a quitté la Terre, l'homme va dans l'espace. Alors quand je dis l'homme est allé dans l'espace, c'est pas seulement l'homme lui-même, mais aussi d'envoyer des robots, envoyer des sondes spatiales, et qui en particulier peuvent aller loin et se retourner vers nous avec des caméras et nous renvoyer notre image.
Donc, c'est-à-dire que l'homme peut s'observer d'ailleurs d'au-dessus, peut observer la Terre.
L'homme peut observer la Terre, alors lui-même des êtres humains de très proches. Bon, vous savez, on l'a fêté il y a très peu de temps, les 40 ans de l'homme sur la Lune. C'est le plus loin où l'homme soit allé sur la Lune, à peu près 400 000 kilomètres, mais on envoie des sondes dans l'univers très loin, par exemple, au voisinage de Saturne, la sonde spatiale Cassini, qui nous a renvoyé plusieurs fois, qui continue d'ailleurs à nous envoyer des images de cette petite Terre qui est comme un petit point bleu dans l'immensité. Et c'est vrai que quand on voit cette image, eh bien, on est bien loin de l'idée qu'on pouvait avoir il y a quelques siècles de la Terre au centre du monde. Et c'est vrai que l'image...
Et c'est ça qui change quoi ? Notre regard, notre manière d'être au monde est changée parce qu'on peut voir la Terre d'en haut, si j'ose dire ?
Bien, disons qu'on prend vraiment conscience de vivre sur une petite planète finie, c'est-à-dire que quand on marche tout droit devant soi, on va se retrouver au même point, au point de départ, au bout d'un certain temps. Et puis on peut faire le tour en avion en une journée.
Une planète aux ressources finies.
Et une planète qui n'est effectivement pas inépuisable. Et donc on ne peut pas dissocier l'astronomie, on ne peut pas dissocier ce qu'on appelle en général la conquête spatiale, et puis l'écologie. On ne peut pas voir la Terre de loin sans se dire, bon, c'est quand même un endroit extraordinaire, cette Terre, et il faut la préserver.
Alors pour prendre conscience de cette Terre extraordinaire, mais aussi du temps et des échelles incroyables, des échelles de temps et d'espace, alors vous avez un petit exercice très simple, Sylvie Vauclair, que vous nous livrez. Moi je propose de
proposer pour nos auditeurs,
on peut le faire en direct.
Chacun peut le faire chez soi, il faut faire attention à ne pas avoir un voisin trop près parce qu'il ne faut pas lui donner de gifle, mais vous étendez les deux bras de chaque côté de vous avec les index pointés et vous dites ça représente l'histoire de la Terre, depuis le bout de mon index gauche jusqu'au bout de mon index droit. Le bout de mon index gauche, c'est la naissance de la Terre, et le bout de mon index droit, c'est l'époque actuelle. Donc ça, c'est toute l'histoire de la Terre. Alors vous dites, la vie, elle est arrivée quand ? Eh bien, d'après ce qu'on sait, d'abord, l'histoire de la Terre, c'est 4 milliards et demi d'années, en fait, qu'on représente avec ses bras étendus. Et les premières traces de vie telles qu'on les connaît, c'est quelque chose comme 3 milliards et demi d'années à peu près. C'est-à-dire que si vous partez de votre index gauche, vous arrivez au coude. Donc au coude gauche, c'est le début des premiers indices de vie sur la Terre. Ensuite, je ne vais pas tout raconter parce que c'est un peu long, mais les premiers mammifères, on est déjà au poignet de votre bras droit.
C'est-à-dire que, oui, si on a les bras étendus...
Si vous avez les bras étendus, vous êtes parti de part et d'autre du corps, vous êtes parti de l'index gauche, vous suivez le bras, au coude gauche, vous avez les débuts de la vie, ensuite vous passez votre thorax, vous allez sur le côté droit et vous arrivez au poignet droit. Ce sont les premiers mammifères. Et les hommes, les êtres humains, sapiens, sapiens, nous, quoi, eh bien, ça arrive à la petite partie blanche de l'ongle de votre index droit.
C'est-à-dire que nous sommes arrivés dans l'histoire
tout
de la
Terre. Tout à fait à la fin et depuis très 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 peu de temps. Alors ça nous force à une sorte d'humilité par rapport à la place de l'homme dans le monde. D'un autre côté, quand on dit des choses comme ça, les gens ont un petit peu d'angoisse quelquefois en se disant « bon, ben, on n'est rien du tout ». Et là, il faut se rappeler que c'est quand même nous, les êtres humains, avec le cerveau humain, qui pouvons penser tout ça, réfléchir tout ça, se représenter ces échelles de temps et d'espace extraordinaires.
Et qui pouvons finalement nous voir aussi petits que ça, voilà, et en même temps comprenant
tout
cela.
Donc c'est difficile, c'est une question ouverte, c'est pas quelque chose qu'on peut résoudre, mais il faut en avoir conscience, l'humanité doit se responsabiliser par rapport à ça et doit prendre conscience du fait qu'on est effectivement peu de choses physiquement dans tout cet espace immense et toute cette échelle de temps, mais d'un autre côté, que nous sommes aussi des êtres extraordinaires.
Micro-méga, nous sommes en compagnie de l'astrophysicienne Sylvie Vauclair. Quand j'ai entendu cette musique, je me suis dit, pour moi, c'est la musique de l'espace. Je me trompe ou pas ?
Oui, je pense que ça nous... Quand on écoute cette musique, c'est vrai qu'on se sent tout de suite partir dans l'infini. Et on est en dehors de ce qu'était la musique vraiment classique, avec sur la base d'accords parfaits, vous savez, les accords parfaits, l'harmonie de...
La musique céleste, voilà.
Justement, l'accord parfait, c'est une sorte de stabilité. Et là ça rebondit tout le temps dans cette musique. Mmh. Ça rebondit, ça repart tout le temps. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'on se sent envoyé dans l'espace. J'ai la même impression que vous.
Si je vous pose la question, Sylvie Vauclair, c'est parce que la musique spatiale, vous vous y êtes intéressé. Vos deux précédents ouvrages s'appelaient La Symphonie des étoiles et La Chanson du soleil. Vous nous avez fait découvrir des vibrations incroyables. Le soleil, ça vibre et ça chante. Donc, il y a du bruit dans l'espace.
Il y a du bruit dans l'espace. Oui, c'est vrai que moi, je suis moi-même musicienne. Donc, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Mais je crois que c'est très lié, la musique et l'astronomie. Ça a toujours été très lié. Mais ce que nous avons découvert, quand je dis nous, ce sont les astronomes, les astrophysiciens, depuis quelques dizaines d'années, c'est très récent, c'est que le soleil et les étoiles, comme le soleil, vibrent comme des instruments de musique, comme des caisses de résonance. Et vous savez, un instrument de musique, comme un violon par exemple, eh bien vous avez la corde qui vibre, vous avez l'archet qui fait vibrer, et puis vous avez la boîte qui résonne. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus important pour le timbre, pour que le son soit joli et amplifié. Eh bien, les étoiles se comportent comme des caisses de résonance. Alors, ce qui vibre, ce sont les régions superficielles, mais aussi toute l'étoile, évidemment, qui se met en vibration. Et la raison pour laquelle ça vibre, eh bien, c'est tous des mouvements qui se produisent dans les régions extérieures, comme dans le Soleil, par exemple. Ça bouge tout le temps. Vous avez des petites explosions. Vous avez toutes sortes de choses qui se passent tout le temps, qui font du bruit. Et ce bruit permanent conduit à mettre la grosse sphère en résonance. Alors, évidemment, c'est un bruit qu'on n'entend pas parce que dans l'espace, il ne peut pas se propager de son parce que c'est le vide quasiment. Mais on voit les vibrations extérieures, vous savez, comme si vous avez un tambour par exemple, et si vous jouez du tambour avec les baguettes de tambour, vous allez entendre un son, mais avec une optique adaptée, vous pouvez voir que la membrane vibre. Et bien là, on voit que les régions extérieures du Soleil et d'autres étoiles vibrent. Donc c'est une musique qu'on voit.
C'est hallucinant, c'est vertigineux, c'est abyssal, on a envie de dire
oui,
sans mauvais jeu.
Oui, je trouve ça très agréable de penser qu'il y a de la musique dans l'espace.
Et puis ça ouvre, mais alors c'est vrai que ça ouvre des questionnements pas possibles. Et il y a notamment une question que vous posez alors dans votre nouveau livre, La Terre, l'espace et au-delà, sur la pluralité des mondes possibles. C'est-à-dire qu'au fond, il y a d'autres mondes, il y a plusieurs mondes, réalités.
Absolument. Alors, vous savez, le Soleil, c'est une étoile, comme toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel. Et le Soleil a donc des planètes qui tournent autour. Et donc on se disait depuis longtemps qu'il devait y avoir des planètes qui tournaient autour d'autres étoiles. Il n'y avait pas de raison a priori que le Soleil soit la seule étoile à avoir des planètes autour. Mais maintenant, ces planètes, eh bien, on les détecte depuis maintenant 14 ans. Ça fait 14 ans, 1995, où on a découvert, alors on, ce sont des collègues suisses de l'Observatoire de Genève, Michel Mayor et Didier Queloz, qui ont détecté pour la première fois une planète autour d'une étoile qui ressemble au Soleil, mais donc qui n'est pas le Soleil. C'était il y a 14 ans, on en connaît aujourd'hui 353. Enfin, le 20 juillet 2009, c'était 353. On en découvre à peu près 3 par mois en moyenne.
C'est pareil, c'est de nouveau des chiffres complètement fous et des mondes complètement...
Voilà, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a une grande partie des étoiles que vous voyez dans le ciel et qui ont des planètes autour. Vous imaginez ça. Vous imaginez ça, notre époque, vraiment extraordinaire. D'abord, non seulement on sait que la Terre est une planète qui tourne autour du Soleil, ça, bon, on le sait depuis 400 ans, on le fait aussi cette année, les 400 ans de la lunette astronomique de Galilée, qui, avec Copernic et plusieurs scientifiques, philosophes de l'époque, ont vraiment fini par imposer l'idée, avec du mal, que la Terre était une planète qui tournait autour du Soleil. Maintenant, cette planète, on la voit, donc on n'a même plus à se poser la question. Et puis, on sait qu'il y en a d'autres. D'autres étoiles avec d'autres systèmes planétaires. On ne sait pas exactement encore le pourcentage, mais on dit à peu près 10% des étoiles auraient des planètes. Et pourquoi pas certaines planètes comme la nôtre, pourquoi pas d'autres vies ailleurs.
Donc au fond, on peut tout imaginer, mais en même temps, vous dites aussi, Sylvie Vauclair, qu'on a tout de même, nous qui mettons des satellites au-dessus de la Terre pour nous observer, on a malgré tout un vocabulaire, une manière de parler, parfois des outils qui datent et qui ne sont pas appropriés à ce que vous venez nous dire maintenant, à ce qu'on découvre. C'est-à-dire qu'on fonctionne toujours sur 24 heures, sur la rotation de la Terre.
C'est toujours difficile d'avoir le langage approprié à des découvertes nouvelles, c'est vrai. Il faut revoir le langage et c'est difficile aussi d'expliquer les choses dans un langage simple, alors que, évidemment, pour les scientifiques utilisent un langage à eux, c'est donc eux comprennent mieux. Mais je crois que c'est possible de comprendre l'évolution des connaissances. Et alors, on est bien obligé par rapport au temps, par rapport au temps qui passe, on est bien obligé d'avoir une unité de temps. Et c'est vrai que l'unité de temps la plus naturelle pour nous, c'est bien les 24 heures, c'est-à-dire la rotation de la Terre sur elle-même, et puis l'année, qui est la rotation de la Terre autour du Soleil. D'autres planètes ont des jours qui ont des durées différentes d'une autre, et puis des années, disons, c'est-à-dire des durées de rotation autour de leur étoile qui sont très différentes des nôtres. Mais c'est pas gênant, ça. Je pense que c'est pas gênant de mesurer les choses. Par exemple, on va dire que telle planète autour de telle étoile a une orbite de, je sais pas moi, de 5 ans, par exemple. On se rapporte à la Terre. Mais je trouve que c'est pas gênant, ça, parce que nous vivons sur la Terre, quand même. Nous vivons sur la Terre, c'est nous qui observons le ciel. Donc c'est normal de continuer à utiliser les unités que nous connaissons sur la Terre.
Micro-Méga sur RFI, nous sommes en compagnie de Sylvie Vauclair, astrophysicienne pour votre nouveau livre, Sylvie Vauclair, La Terre, l'espace et au-delà. Alors, dans ce livre, vous vous posez aussi, j'imagine, des questions existentielles, au fond, sur notre finitude, sur notre place dans ce vaste monde. Ben, j'en relève une là tout de suite. Comment et pourquoi les mondes disparaissent-ils, Sylvie Vauclair?
Oui, je crois que quand on prend conscience justement de ce que nous sommes sur une petite planète qui tourne autour d'une étoile, on se repose peut-être d'une autre manière les questions de l'existence. Mais la science, il faut bien se dire que la science en elle-même permet de comprendre de plus en plus le monde dans lequel nous vivons, de nous situer par rapport à lui, mais la science n'a pas les réponses à tout. La science ne va pas me dire, par exemple, pourquoi suis-je moi ? comment, pourquoi est-ce que je suis né, pourquoi je vais mourir, ça la science ne peut pas répondre à ça. Donc on a une démarche, chacun a une démarche personnelle par rapport à ça, qui peut être une démarche religieuse ou une autre démarche d'une autre sorte. Bon, moi j'explique personnellement, je suis agnostique, c'est-à-dire toujours en recherche à la fois en recherche scientifique mais aussi en recherche philosophique ou spirituelle, vous voyez, par rapport à ma situation, qui je suis. Donc je n'ai pas une réponse et ça ne me gêne pas trop. Quelqu'un disait, la science c'est l'art de poser toujours de nouvelles questions. Et moi ça ne me dérange pas d'avoir des questions, je ne cherche pas à avoir des réponses à tout, je sais que de toute façon j'ai pas de réponse à tout. Alors je refuse de m'imposer des réponses, donc sous forme de croyances, quelles qu'elles soient, simplement pour me sentir mieux, pour me satisfaire. Je préfère rester avec mes questionnements.
Mais justement, on a l'impression aussi que c'est très important aujourd'hui de se poser des questions, de poser les bonnes questions. En vous lisant, par exemple, on se dit que, effectivement, peut-être qu'on se posa les vraies questions. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut se voir de plus haut, de plus loin, qu'on découvre qu'il y a d'autres mondes, qu'on pose des questions. On a l'impression qu'ils nous dépassent complètement. Et en même temps, on est dans ce monde-là, on vit là-dedans. Et il est peut-être temps de se rendre compte de l'importance de toutes ces questions-là, de l'importance de ces découvertes et de la différence qu'il y a finalement avec l'humanité d'autrefois.
Oui, je crois que maintenant, on doit avoir une prise de conscience planétaire, c'est-à-dire que l'humanité est un tout. Nous sommes tous embarqués sur le même bateau, nous sommes tous embarqués sur le même vaisseau spatial. Et je pense que si les gens étaient plus conscients de ça, plus éduqués à ce niveau, eh bien, il y aurait peut-être moins de fanatisme, moins de repli tribal, je dirais, sur soi-même ou sur un groupe. Je suis peut-être utopiste, mais je pense qu'il y aurait moins de guerres, moins de problèmes liés à des questions de place sur la Terre. Si on avait conscience qu'on était tous le même peuple, en fait.
Et qu'est-ce qu'il faudrait justement se poser comme bonne question aujourd'hui, se dire...
Je pense qu'il faut... Pas tellement, chacun se pose ses propres questions, je dirais. Mais il faudrait déjà arriver à une éducation. Il faudrait que les enfants partout dans le monde puissent être éduqués à ça, puissent avoir l'information.
À savoir que nous sommes sur la même planète et tout petit au milieu d'un univers gigantesque et encore totalement inconnu, c'est ça?
Voilà, et savoir que nous existons, que l'humanité existe depuis si peu de temps. Et donc, évidemment, viennent les questions, combien de temps encore l'humanité va exister? Alors là, on sait combien de temps la Terre va exister si les hommes ne jouent pas avec. D'une manière naturelle, la Terre va exister encore 5 milliards d'années. Après, le Soleil lui-même va disparaître, il va gonfler et englober les orbites des planètes, y compris de la Terre. Donc ça, c'est la disparition naturelle de la Terre. Mais évidemment, à ce moment-là, on a conscience du fait que l'homme est arrivé... Bon, on disait que nous vivons une période exceptionnelle. Je parlais de partir dans l'espace, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se passent à l'époque actuelle, en particulier la communication instantanée sur toute la planète, ça c'est très important, l'Internet qui fait que l'humanité forme un tout, et puis aussi le pouvoir de l'homme sur la planète, le pouvoir qui peut être utilisé dans un sens positif ou dans un sens négatif. D'abord, l'homme était capable, et toujours capable d'ailleurs, de faire sauter toute sa planète avec des bombes nucléaires, et puis l'homme est capable de détruire la planète par la pollution, il est capable d'épuiser la planète en utilisant toutes les ressources. Donc la question, je crois, si tout le monde prenait conscience de ça, la première question qu'il faut se poser, c'est que devons-nous faire? Non pas vraiment, je dirais, pour construire l'avenir, parce que l'avenir, ce sont nos enfants qui le construiront, mais pour préserver tout cela, pour donner toutes les possibilités à nos enfants de construire un merveilleux avenir.
Merci beaucoup, Sylvie Vauclair. Alors, la Terre, l'espace et au-delà, c'est une histoire extraordinaire, la nôtre, et ça vient de paraître chez Albin Michel, qui a également édité d'ailleurs vos deux précédents ouvrages, La Symphonie des étoiles et La Chanson du Soleil. Merci, Sylvie Vauclair.
Merci. バスタップの代わりにちょっとって見てたんだけど、それで頭が前に
Changement de registre, nous voilà redescendus sur Terre avec vous, Dominique Dezonnet, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et donc avec vous et avec votre invité, on va se plonger dans un dictionnaire pour le moins original.
Oui, le dictionnaire impertinent du futur d'Anne Caroline Poco qui vise à vulgariser les nouvelles technologies en faisant évoluer la langue française. Alors Caroline, souffrez-vous parfois d'ivresse provoquée par l'abus de lecture de contenu ou d'utilisation d'applications venues du web?
Mais ça m'arrive et de plus en plus régulièrement.
Eh bien sachez que vous êtes en état de webriété et que cette sensation est proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus par la souris lors d'un surf intensif. Et n'avez-vous jamais subi une perte brutale de vos données numériques?
Bah si, ça fait très très mal, c'est grave docteur.
Vous souffrez de numéragie. Alors, après avoir écrit le dictionnaire impertinent du futur, Anne-Caroline Poco a voulu donner à tous la possibilité d'inventer des mots du futur. Elle a donc créé un site capable d'accueillir cette production collective. Anne-Caroline Poco, bonjour.
Bonjour.
Le site en question s'appelle www.dictionnairedufutur.fr, c'est bien ça. Une partie de la galaxie de Yaka, en fait c'est votre marque Yaka.
Oui, Yaka, mais rien à voir avec Yaka Faucon. Hein.
Oui.
Yaka c'est une créature chimérnétique.
Une créature chimérnétique.
Oui.
Alors expliquez-nous ce que c'est qu'une créature chimérique, je savais, oui. Mais chimérnétique, non.
Non, c'est un descendant de l'hydre de Lerne, revisité par Darwin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un être avec plein de têtes, et à chaque fois qu'on coupe une tête, il y en a une autre qui repousse. C'est pas mal pour pouvoir inventer, créer. Il faut toujours en permanence avoir une tête de rechange.
C'est un bon conseil. Alors, il y a une constellation de sites. Hein. Il y a entreprise2020.fr, dictionnairedufutur.fr, compte à inventer lefutur.fr, anticipe. Antipédia aussi que j'aime beaucoup, antipédia.info. Donc on anticipe, c'est tout sur la prospective, tout tourne quand même autour des nouvelles technologies.
Pas uniquement des nouvelles technologies, de la prospective, oui. Parce que mon but, c'est de pouvoir dire, on ne peut pas prédire le futur, mais on peut l'inventer. Et tant qu'à faire, il faudrait que tout le monde puisse participer à cette invention. Pas uniquement des experts, l'expert qui est dans son bureau comme ça et qui a des idées un petit peu grises. Donc c'est le principe un peu de base du dictionnaire du futur.
C'est-à-dire que l'invention, ça passe évidemment par les mots et par le langage. Faut inventer quoi? Ce qui va se passer? Ce qu'on fait? Ce qu'on vit?
Le principe, c'est de pouvoir dire, il y a des nouveaux concepts aujourd'hui. On dit, on les nomme, et quand on nomme quelque chose, ça commence à exister. Donc, par la création de mots, on crée du futur. Et après ce futur, tant qu'à faire, il vaut mieux qu'il soit désirable, même plus que durable.
Mais on crée parfois aussi du présent, parce que pour préparer cette émission, j'ai découvert un mot que je ne connaissais pas, c'est le solublème. Alors c'est quoi le solublème?
Ah, le solublème, c'est une solution qui crée un problème. Ah. On a aussi, c'est vrai, une école de formation en France.
Une solution qui crée un problème, oui. Ça nous arrive pas mal en ce moment, j'ai l'impression.
Et donc avec l'école de formation, ça s'appelle l'ENA, qui est tout de même des adeptes du solublème.
C'est-à-dire que, au fond, aujourd'hui, on sait trouver des solutions qui créent encore plus de problèmes.
Ah, on est très très fort à ça. On est vraiment des experts parce qu'on fonctionne en circuit fermé. Donc à chaque fois, on envisage quelque chose qui va tout d'un coup créer problème.
D'où l'intérêt d'être un peu impertinent et d'être une hydre à plusieurs têtes.
Ben, le principe, c'est de pouvoir avoir une fenêtre ouverte ou bien de monter sur la table et on a une autre vision. Et par l'intermédiaire des mots, on peut avoir une autre vision.
Alors pour jouer avec les mots, il faut un réseau. Le réseau, il se situe uniquement en France ou pas?
Alors l'objectif, c'est de pouvoir créer une académie du futur, avec non 40 immortels, mais 40 intemporels, qui soit située dans toute la communauté francophone. Et le principe de cette académie, c'est de pouvoir faire émerger des nouveaux concepts. En Afrique, c'est différent de chez nous. Et de pouvoir aussi essayer de les nommer, ces concepts. On va peut-être nommer la même chose de façon différente, qu'on soit en Afrique, au Québec ou en Suisse.
Et au fond, à partir du moment où on aura nommé nous, hein, les gens normaux qui travaillons derrière notre ordinateur, une fois qu'on aura nommé cette réalité-là, elle existera peut-être.
Elle commence à exister. Il y a des gens qui ont travaillé, par exemple, aujourd'hui on a des animateurs, des community managers, qui est un mot anglais pas très joli. Il y a des gens qui ont nommé, qui ont dit, tiens, on va les appeler les gimmicks. Les gimmicks, c'est à la fois le côté geek, c'est-à-dire féru des nouvelles technologies, et à la fois la gimmick au niveau jazz. Depuis qu'effectivement ces femmes ont créé ce mot, c'est une profession qui commence à exister.
Les gimmicks.
Ouais.
Voilà. Mais donc, une profession ou ça désigne une personne ?
Ah, là, c'est une profession.
Alors, comment si donner on... du sens à tous ces mots ? Parce qu'une fois qu'on les a créés, le sens est évident, parce qu'il y a des fois, on est bien obligé de chercher la définition.
Mais je pense que le mot, c'est quelque chose d'extrêmement démocrate. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui fait l'usage. C'est-à-dire, un mot, on va le mettre, on va le lancer, il va être accepté. S'il est accepté, on va lui donner du sens.
Mais il y a en même temps, moi j'ai l'impression quand même derrière, et vous le dites vous-même, dans ce dictionnaire impertinent du futur, il y a de l'impertinence. Vous disiez, on pourrait voir les choses autrement, on peut monter sur la table. C'est-à-dire que vous dites, au fond, il faut bousculer tout ça. Il y a une grande envie de bousculer.
Oui, puis je pense qu'il y a surtout aussi une envie de rajouter un petit peu de l'imagination, qui est, comme on dit Einstein, plus important que le savoir.
Ah.
Et aujourd'hui, on est un peu trop dans le savoir, dans la technicité, dans quelque chose où tout d'un coup, on a la science qui doit être diffusée par des experts qui savent.
Donc il y a des choses innovantes qui se passent actuellement sur la toile, qu'il faut ramener dans la réalité, dans la vraie vie.
Ah oui.
Parce que ça, c'est un déficit, effectivement. On a l'impression que tout se passe dans le monde numérique et peu de choses concrètes se passent dans la réalité, dans la vie de tous les jours. Ou est-ce qu'il y a des croisements ?
Au niveau des mots ? Ou bien au niveau
oui, au
de...
niveau des mots et au niveau du sens des mots, de ce qu'ils représentent.
Oh bah, y a
on
déjà,
est extrêmement
moment,
imaginatif on... sur la toile. Est-ce qu'on l'est autant dans la vie de tous les jours ?
Bah, je sais pas. On augmente le nombre de contacts, donc on augmente la capacité de friction, d'échange, donc on augmente l'imagination.
Merci beaucoup Anne-Caroline Paco. Alors moi j'adore votre site conteainventerlefutur.fr, donc il faut y aller. À citer également le dictionnaire impertinent du futur, ça c'est à découvrir aux éditions M21. Dominique Dezonnet, merci. Micro-méga, ça continue, il n'y a qu'à rester sur RFI. On se retrouve juste après les infos pour une dernière partie version science-fiction avec les frères Bogdanov en double multifacette. Restez en notre compagnie sur la Radio Mondiale.